journal vous est présenté par Corinne Audouin. Bonjour Corinne.
Bonjour. Coup d'accélérateur sur le front du Covid en France. Les contaminations sont en hausse. Le gouvernement s'apprête à présenter son texte sur l'extension du pass sanitaire. Et parmi les personnels concernés par l'obligation vaccinale, ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner s'y résignent. Reportage avec des auxiliaires de vie dès le début de ce journal. Tandis que l'Angleterre célèbre le Freedom Day, la fin du masque obligatoire et le retour du service au bar dans les pubs. Malgré un Premier ministre cas contact et isolé, les Londoniens sont divisés, vous les entendrez. Pegasus, c'est le nom d'un redoutable logiciel espion. Révélation de la cellule investigation de Radio France, avec un consortium international de journalistes. L'entourage de Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien assassiné en 2018, a ainsi été surveillé après sa disparition. Et puis J-4 avant le début des Jeux Olympiques de Tokyo, on en parle à 8h20, Karine.
Oui, place au JO dans le grand entretien ce matin à 4 jours de la cérémonie d'ouverture à Tokyo. On vous propose un plateau exceptionnel d'invités avec la ministre déléguée en charge des sports, Roxana Maracineanu, une athlète, une judokate, Sandrine Martinet-Aurière et notre correspondante sur place, Karine Nishimura. À quoi vont ressembler ces Jeux cette année? Une édition qui s'annonce évidemment particulièrement bousculée. Fallait-il les annuler? Vos questions, vos réactions comme toujours au 01 45 24 7000. Rendez-vous à 8h20.
Et puis la patrie et la vie, c'est le champ de ralliement de plusieurs rappeurs cubains fatigués de la propagande du régime suite de notre série d'été Protest Songs à la fin de ce journal.
France Inter.
C'est l'heure des derniers arbitrages avant la présentation au Conseil des ministres du projet de loi sur l'extension du pass sanitaire. Ce qui ne devrait pas changer dans le texte, c'est la vaccination obligatoire pour les soignants d'ici le 15 septembre. Obligatoire aussi pour les personnels qui travaillent avec des publics fragiles, comme les auxiliaires de vie à Beure, près de Besançon, dans une colocation pour personnes âgées du groupe Âge et Vie. Beaucoup de salariés se résignent à aller se faire vacciner. C'est un reportage d'Alice Cachaner.
Ça va, vous y arrivez, Germaine ?
L'ambiance est familiale. Chaque midi, les locataires et leurs auxiliaires de vie cuisinent ensemble.
Coupez pas le doigt, hein ?
Non, évitez.
Les locataires ont en moyenne 88 ans. Ils sont quasiment tous vaccinés. En revanche, côté auxiliaire, on est un peu plus réfractaire.
Je ne ressens pas le besoin de me protéger d'un virus qui ne peut pas vraiment m'atteindre pour le moment.
Comme Cécile, 50% des 300 auxiliaires du groupe AGV ont refusé jusqu'ici la vaccination. Mais les annonces d'Emmanuel Macron la semaine dernière ont fait bouger les lignes.
J'ai plutôt l'impression que ça a débloqué les situations, parce qu'il y a quand même beaucoup de salariés qui nous ont dit qu'ils vont se faire vacciner parce que maintenant, ils n'ont pas le choix.
Nicolas Perrette, le cofondateur de l'entreprise.
On n'a pas les modalités de savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. La loi va sortir. Nous, encore une fois, on n'est pas là pour punir. On a un objectif, c'est que les gens soient vaccinés et que ça se fasse le mieux possible. Si on peut les accompagner, les aider, on le fera.
Une vaccination à contre-cœur, Cécile a songé à démissionner, mais elle ne veut pas perdre un travail qu'elle aime et qui la fait vivre.
J'y vais à reculons, c'est une place quand même en or, j'ai la chance d'avoir un CDI. Non, je lâcherai pas mon travail, il faut que je paye les factures quand même aussi à la fin du mois.
La décision de Cécile est prise, mais elle ne l'appliquera qu'au dernier moment pour être en règle le 15 septembre.
Et d'ici là, tandis que les cas de Covid explosent avec plus de 12 500 cas détectés en France en 24 heures, il va donc falloir adopter la loi. La semaine va ressembler à une véritable course d'obstacles pour le gouvernement pour réussir à boucler le texte d'ici dimanche. Bonjour Yael Gauz.
Bonjour Corinne.
Chef du service politique de France Inter, et le calendrier s'annonce très serré, Yael.
Oui, ce ne sera pas un long fleuve tranquille, me confiait ce week-end un ministre, même si les socialistes, même si les républicains sont globalement d'accord avec ce virage vaccinal. Les modalités du pass vont faire débat, vagues d'amendements en perspective, sans possibilité pour le gouvernement d'imposer un temps législatif programmé. LFI ou Debout la France ont clairement annoncé la couleur en participant aux manifs du week-end. Adoption du projet de loi ce lundi à 18h30 en Conseil des ministres, passage demain en commission à l'Assemblée, puis mercredi vote des députés, même schéma au Sénat jeudi et vote vendredi. Les deux chambres se mettent d'accord samedi et revotent au plus tard dimanche pour que le Conseil constitutionnel puisse ou non valider le texte dans la foulée pour application début août.
Oui, car d'autres incertitudes pèsent sur ce texte, Yael, et elles sont juridiques.
Oui, le point le plus fragile, c'est l'article 4, l'isolement obligatoire de 10 jours pour toute personne positive. Qui, précisément? Les juges des libertés et de la détention sont-ils assez nombreux pour pouvoir assurer le contrôle? Un projet filtré en amont par le Conseil d'État, le gouvernement sera fixé dans la matinée, puis en aval par le Conseil constitutionnel, avec trois feux qui doivent passer au vert. Cette loi est-elle adaptée, nécessaire et proportionnée. Critère 1, l'adaptation. Le pass permet-il de lutter contre la propagation de l'épidémie? A priori, oui. Critère 2, peut-on faire autrement? Un couvre-feu ou un confinement pour tous ne serait-il pas plus punitif encore? Critère 3, la proportionnalité. Y a-t-il urgence à agir face à l'épidémie? Oui, l'augmentation des cas est très rapide. Équité, liberté et protection de la vie privée, c'est tout ça qui est sur la table. Et qui va contrôler? Les centres commerciaux de moins de 20 000 m² savent déjà qu'ils se passeront du pass.
Merci Yaël Gauze. Et en attendant l'adoption de cette loi pour une entrée en vigueur en août, le ministre de l'Intérieur a écrit au préfet Gérald Darmanin, les enjoint à la fermeté dans le contrôle des mesures déjà en place, y compris en fermant les boîtes de nuit qui ne respecteraient pas le contrôle du pass sanitaire.
Le contraste est saisissant avec le Royaume-Uni qui se réveille en plein Freedom Day, le jour de la liberté.
Oui, depuis ce matin, c'est la fin du masque obligatoire en Angleterre et de la plupart des restrictions liées à la pandémie, avec notamment le retour du service aux bars dans les pubs. Le Premier ministre Boris Johnson, cas contact et placé à l'isolement, a tout de même exhorté les Britanniques à rester prudents et fait appel à leur responsabilité individuelle. Laura Calmus est allée à la rencontre des Londoniens et ils sont divisés.
À Camden Market, le Covid-19 paraît bien loin. Les Anglais au look punk et rock sont revenus et des groupes d'étudiants font la queue au stand de street food. Parmi eux, Chloé, en fac de lettres, qui ne cache pas son enthousiasme.
J'ai réservé des places pour aller dans une boîte de nuit. J'ai eu 18 ans pendant le confinement et j'ai tellement hâte de pouvoir sortir.
Car dès aujourd'hui, presque toutes les restrictions sont levées. Le pass sanitaire existe mais reste facultatif et c'est même la fin du port du masque obligatoire en intérieur. Un allègement qui divise les Anglais.
Moi, je mettrai mon masque dans les transports en commun et quand j'irai faire mes courses aussi.
Une prudence justifiée. Certes, 60% des adultes sont doublement vaccinés, mais près de 50 000 personnes sont testées positives par jour. Alors pour Jackie et David, ce déconfinement n'est pas raisonnable.
Ça n'a pas de sens. Boris Johnson s'est fixé un objectif. Il ne veut pas revenir dessus.
Ce n'était pas le bon moment. Le gouvernement fait une erreur.
Ironie du sort, le Premier ministre est cas contact et à l'isolement. Et pour beaucoup, c'est bien la preuve que Freedom Day, le jour de la liberté, comme l'ont rebaptisé les Anglais, est prématuré. Londres, Laura Calmus, France Inter.
Dernier bilan des inondations en Allemagne et en Belgique. On dénombre 191 morts et de nombreux disparus sont encore à déplorer. Pegasus, c'est le nom d'un redoutable logiciel espion commercialisé par la société israélienne NSO, selon les révélations de la cellule investigation de Radio France, avec un consortium international de journalistes. Il a été utilisé pour surveiller des centaines d'avocats, de journalistes, d'opposants en politique dans une cinquantaine de pays. Le Maroc, en particulier, a fait un usage massif de ce logiciel. Rabat a ainsi listé 10 000 numéros de téléphone comme autant de cibles potentielles, dont 1000 Français, parmi lesquels le fondateur de Mediapart, Edoui Plenel, l'ex-journaliste du Canard Enchaîné, Dominique Simoneau. A noter que les autorités marocaines démentent ces accusations d'espionnage. Alors, comment fonctionne ce logiciel? Écoutez les explications de Laurent Richard, le directeur de Forbidden Stories.
Ce logiciel-là, quand il est utilisé contre vous, c'est une intrusion absolue, totale, profonde dans votre intimité. Et donc une fois que ce logiciel en fait rentre dans votre téléphone, il sait tout de vous. Il peut activer votre caméra, il peut activer votre micro, ils peuvent absorber et voir toutes les photos que vous avez sur votre téléphone portable, ils peuvent voir vos messages, vos SMS, vos communications, même sur des applications dites chiffrées. Tout ceci va vous échapper et sera lu et vu par les opérateurs de renseignement.
Laurent Richard de Forbidden Stories. Bonjour Élodie Guéguin.
Bonjour.
Journaliste à la cellule investigation de Radio France. On découvre également, Élodie, que l'entourage de Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien assassiné à Istanbul en octobre 2018, a été surveillé après sa disparition.
Oui, ce que nous avons pu établir, c'est que à la fois l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont sélectionné comme cible de Pegasus des numéros qui correspondent à l'entourage très proche de Khashoggi, un de ses fils, mais aussi sa fiancée. Elle a confié son téléphone au laboratoire technique d'Amnesty International et il a découvert qu'il avait effectivement été infecté par ce logiciel espion très puissant, très peu de temps après l'assassinat de Jamal Khashoggi. Alors, sur la liste des cibles, on trouve aussi des amis du journaliste, un ancien directeur d'Al Jazeera et un activiste saoudien exilé en Grande-Bretagne. Il figure également l'avocat de la fiancée, un Britannique spécialisé dans les droits de l'homme, et même, imaginez, le procureur turc qui était en charge de l'enquête sur l'assassinat du journaliste, ce qui permet de penser qu'on a cherché à savoir où en étaient les investigations de la Turquie. NSO maintient de son côté que sa technologie n'est impliquée en rien, je cite, dans le meurtre de Jamal Khashoggi.
Et pour préciser enfin que la société israélienne NSO assure que leur technologie n'est impliquée en aucune manière dans l'odieux meurtre de Jamal Khashoggi. Fin de citation. Je précise, Élodie, qu'on retrouve toutes les révélations de la cellule d'investigation sur le projet Pegasus sur notre site franceinter.fr.
Les images de poussins mâles broyés vivants avaient choqué l'opinion. Ce sera bientôt terminé.
Oui, cette fois, la France s'y engage. À partir du 1er janvier 2022, il sera mis fin au broyage et au gazage des poussins mâles, ainsi qu'au castrage des porcelets, annoncé hier du ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, car il est désormais possible de différencier le sexe des poussins avant l'éclosion, pour ne garder que les femelles, les futures pondeuses. Cela grâce à une technologie inventée en Allemagne. Les professionnels ont donc 5 mois pour s'y convertir. Laurent Kramer.
À travers la coquille de l'œuf, au stade encore embryonnaire, cette technologie allemande permet de déceler la couleur des toutes premières plumes du poussin dès son 13e jour d'incubation. Cette caméra, aidée d'une puissante lumière, analyse donc le poussin à l'intérieur de son œuf et reconnaît les plumes foncées des futures poules rousses, écarte donc au passage les embryons des poussins mâles pour les détruire 8 jours avant leur éclosion. Si le débat persiste encore pour les associations et certains éleveurs, cette technologie permettra de mettre fin au broyage chaque année de 50 millions de poussins mâles et n'engendrera pas de coûts significatifs pour le consommateur, avance le ministère de l'Agriculture. Une subvention de 10 millions d'euros est déjà sur la table pour transformer la filière. Avant d'entamer une démarche à Bruxelles, la France souhaite faire interdire le broyage des poussins mâles dans toute l'Europe dans les années qui viennent.
Sur la route des vacances, on les aperçoit sur le bord des autoroutes. Les patrouilleurs responsables de l'entretien des voies et des aires de repos, ce sont aussi les premiers à intervenir en cas de panne ou d'accident. Et ils sont trop souvent victimes de l'inattention des automobilistes. Chaque semaine, un fourgon d'agents autoroutiers est percuté chaque semaine. Sophie Potvin a rencontré ces patrouilleurs.
Cédric Belloc se décrit comme un miraculé. En 2015, une automobiliste inattentive a foncé sur lui pendant une intervention.
C'est très traumatisant, quoi, parce que c'est les chocs qui sont énormes. Moi, dans mon cas, j'ai le bruit du dérapage de la voiture qui vient vers moi. Ça me tétanise. Il y a des personnes qui ne s'en remettent pas. Hein. J'ai des collègues qui ont pas repris le boulot. Hein.
15 jours en soins intensifs et une longue dépression plus tard, lui a repris par passion pour son métier qu'il exerce depuis 25 ans. En intervenant auprès des automobilistes en difficulté, il évite les suraccidents et rassure avant l'arrivée des secours. Mais il continue de se mettre en danger.
La boule au ventre, oui, on l'a. Certains automobilistes font tout sauf conduire. Nous, c'est pour ça qu'on est en colère, on tire la sonnette d'alarme, on se dit, ça peut pas continuer comme ça. Que voilà, on aura beau, encore une fois, mettre toutes les gyrophares, tout le dispositif lumineux sur nos véhicules, tant que les automobilistes n'auront pas pris conscience que quand ils prennent un véhicule, ils ont une arme entre les mains, nous, voilà, la règle, c'est la sécurité.
Les deux principales causes d'accident, l'inattention et le manque de vigilance. Jérémy Malot travaille sur un tronçon de 60 km de l'autoroute A8.
On voit de plus en plus de clients qui conduisent avec le téléphone et l'inattention du conducteur, pour nous, c'est le pire. Et ce que je demanderais, moi, aux clients, c'est de ralentir, s'éloigner le plus possible. Si on est à l'arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est pas pour notre plaisir.
Des règles simples, mais encore trop peu respectées.
Un reportage de Sophie Potvin et on a bien noté, attention, sur l'autoroute. À 4 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, déjà la crainte d'un cluster, 2 joueurs de l'équipe sud-africaine de football et un membre de l'encadrement installé dans le village olympique ont été testés positifs hier au Covid-19. Et puis pour terminer ce journal, comme tous les lundis, la bande son des contestations, ces protest songs. Ce matin, direction Cuba, où des rappeurs bravent la censure avec un clip visionné des millions de fois cette année. Leur chanson, qui détourne le slogan de la révolution, provoque la colère du régime castriste. Cyril Sauvageau.
Patria ou muerte, La patrie ou la mort, disait Fidel Castro. La patrie et la vie, lui rétorque ce groupe de rappeurs fatigués de la propagande du régime. Le texte, co-signé par plusieurs poids lourds du rap cubain, dénonce notamment les commémorations fastueuses des 500 ans de la Havane, alors que dans les foyers, les casseroles sont vides. Comble de la provocation, le morceau est construit sur un sample du chanteur Silvio Rodriguez, un héros du castrisme. La vidéo a fait tellement de bruit à Cuba que le président lui-même, Miguel Díaz-Canel, a dû réagir. Il a fallu envoyer au front les artistes officiels, comme l'écrivaine Teresita Cuyala, qui apparaît dans cette vidéo pour prendre la défense de la révolution. Un régime sur la défensive, mais qui parvient de plus en plus difficilement à étouffer le mécontentement d'une partie de sa jeunesse. Depuis l'an dernier, un collectif d'artistes multiplie rassemblements et grèves de la faim pour dénoncer la censure. Ces actions apparaissent à l'écran dans la vidéo de Patria y Vida.
Voilà, Protest Song, une série de Cyril Sauvageau à retrouver également sur notre site internet.
Et c'est une très jolie série d'été. Merci Corinne Audouin, bonne journée. Je vous dis à demain. Allez, la météo.
La météo, avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Et la météo, c'est forcément Stéphanie Fromentin. Stéphanie, le soleil donne le ton aujourd'hui.
Oui Karine, une partition parfois ponctuée de quelques bémols car en début de journée, des nuages garnissent l'est provençal avec quelques averses mais disparaissent au fil des heures. Sur les Alpes, l'instabilité est installée et développe par moments des ondées à caractère orageux cet après-midi, surtout sur les Alpes du Sud. Sur les autres reliefs, les cumulus bourgeonnent par endroits, laissant échapper de rares ondées. Quant aux nuages bas matinaux des Landes, au Gers et sur le Massif central, ils vont s'effriter progressivement. Et puis enfin, sur les Hauts-de-France, le ciel sans nuages, partiellement, des averses, voire un coup de tonnerre est possible, principalement de la Somme à l'Aisne. Dernière note un petit peu moins ensoleillée, les quatre départements maintenus en vigilance orange pour des risques de crues, la Marne, les Ardennes, l'Aisne et la Saône-et-Loire.
Et les températures se réchauffent.
Oui, elles sont pleines de chaleur et atteignent 25 à 28 degrés en bord de Manche et tout de même une petite fraîcheur à Dunkerque avec 22 degrés. Sur la moitié nord, le thermomètre se développe ce matin de 25 à 29 degrés des Hauts-de-France au Grand Est. Au sud, il est plus généreux. Les valeurs affichent 28 à 33 degrés jusqu'à 34 à 35 en Roussillon cet après-midi, en basse vallée du Rhône et sur les terres varoises. Il fera 27 degrés à Lille et Strasbourg, 29 à Nantes, Paris et Grenoble, 32 degrés à Saint-Julien-des-Landes en Vendée, 33 à Seyon dans le Var.
Quelle précision, merci Stéphanie Fromentin. Tout de suite, géopolitique.
Le 6-9. Listen anywhere. Huawei Dubai. Wahdahu min Souria. Sur France Inter.
Et géopolitique, c'est avec vous cet été, Anthony Bellangy, bonjour.
Bonjour, bonjour Karine, bonjour à tous.
Alors vous avez voulu revenir ce matin sur les inondations meurtrières en Allemagne.
Oui, alors moins sur le drame lui-même que sur ses conséquences politiques. À quelques semaines de législatives cruciales, le 26 septembre, les Allemands décideront de là ou du successeur d'Angela Merkel. Or en Allemagne, des inondations et une paire de bottes en caoutchouc ont déjà décidé d'une élection. C'était en août 2002, l'Elbe et le Danube débordent en pleine campagne électorale. À l'époque, les conservateurs de la CDU avaient une avance de 5 points dans les sondages. Leur adversaire est le social-démocrate Gerhard Schröder, un animal politique qui se précipite en bottes de caoutchouc sur les lieux du drame. Mm-hmm. Le candidat conservateur, lui, attendra une semaine et arrivera en polo.
Alors c'est une erreur que n'ont pas reproduite les candidats d'aujourd'hui.
Pas le chrétien-démocrate Armin Laschet, en tout cas. Il s'est rendu sur place en bottes de caoutchouc quelques heures après la catastrophe. D'ailleurs, depuis qu'il est entré en campagne en janvier, tout semble lui réussir. Son parti a plus de 12 points d'avance. Sa principale opposante, elle est c'est l'écologiste Annalena Baerbock, semble être incapable de se dépêtrer d'accusations de plagiat et surtout d'imposer son agenda dans une situation pourtant très favorable en Allemagne, au Grünen, vous savez, la triade pandémie, monde d'après et transition écologique.
Ça s'est d'ailleurs traduit dans les sondages.
Oui, en repassant sous la barre des 20% d'intention de vote, mm-hmm. Annalena Baerbock semblait avoir perdu pied. Il s'en est fallu d'un rire et d'un titre de presse. Le rire, c'est celui d'Armin Laschet, donc, lors d'un hommage aux victimes des inondations présidé par le chef de l'État allemand. Mais le pire, c'est le titre à la une du quotidien populaire Bild. L'Allemagne pleure et Laschet rit. Le Bild, outre Rhin, c'est 1,5 million d'exemplaires quotidiens. et une réputation de faire et de défaire les élections. Bref, le mal est fait et il est d'autant plus terrible qu'il a été précédé d'une autre maladresse. Alors qu'on lui demandait si ces inondations allaient modifier son agenda environnemental, il a répondu un peu raide, on ne change pas de politique à cause d'un événement de ce type.
Il reste tout de même plusieurs semaines de campagne.
Alors voilà, surtout l'avance n'est pas de 5 points comme en 2002, mais bien de 10 à 12 points. Ouais. De plus, si ces inondations ont une conséquence politique, c'est moins dans le rattrapage électoral que dans le retour en grâce de l'agenda écolo. Et puis, il y a Angela Merkel. Hier, en se rendant sur place, la chancelière a semblé vouloir limiter les dégâts à droite. Mais en montrant qu'elle était l'exact opposé du candidat de son propre parti, c'est-à-dire empathique, mais sans effusion et surtout professionnelle, elle n'a fait au fond que marquer la différence avec Armin Laschet. Et je ne suis pas certain que ce soit tout à fait innocent de sa part. Angela Merkel, vous savez, c'est certes Mutti Merkel, à savoir Maman Merkel, mais c'est surtout une tueuse en politique qui a systématiquement éliminé tous ses rivaux au sein de son propre parti. Or, je pense que ça ne lui déplairait pas qu'une femme de 40 ans, même écolo, lui succède à la chancellerie plutôt qu'un sexagénaire un peu falot, politicien professionnel et originaire de l'ouest de l'Allemagne, même conservateur, comme Armin Laschet.
Merci Anthony Bélanger. À suivre, le grand entretien de la matinale.